Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
La une des grandes gueules du sport.
La lutte avec Pogacar, Pogacar qui va s'imposer juste devant Vingegaard. Il est maillot jaune, il est encore vainqueur d'étape. Quelle finale incroyable! Michael Matthews, lui, va peut-être mettre le feu à cette arrivée avec Pogacar dans sa roue. Michael Matthews est costaud à la lutte avec Van Aert, Van Aert, Van Aert, Van Aert, Van Aert, Van Aert, Van Aert. Qui s'impose ici devant Michael Matthews et Pogacar.
Il est désormais à 3,8 km de l'arrivée. Il fournit tous les efforts. Incroyable performance de Vingegaard aujourd'hui, Jérôme.
Quand Pogacar est parti au fossé, est parti à la chute, il a attendu par respect Pogacar. Il lui a serré la main. Et puis dans la dernière montée, il a accéléré, il a lâché Pogacar. Et maintenant, il peut lever les bras sur la ligne d'arrivée d'Otakam. Il n'y a qu'un homme seul en jaune. Il s'appelle Jonas Vingegaard.
Michael Matthews qui est dans la ligne droite, qui lève le bras gauche, la victoire est là pour l'Australien.
Marie, je te laisse toujours quelques secondes pour...
J'aurais peut-être pas dû.
Pogacar, Vingegaard, Vingegaard, Pogacar, c'est le résumé de ce Tour de France 2022. Même si c'est un peu vite oublié le départ au Danemark, les pavés, les meilleurs coureurs du monde à la lutte chaque jour pour la victoire, l'OVNI, Van Aert, sans cesse à l'attaque. Et la difficulté générale d'une course ultra sélective. Mais oui, un troisième du général à 8 minutes du vainqueur, un top 10 éparpillé à 20 minutes du maillot jaune et deux coureurs trop forts, beaucoup trop forts pour les autres. On ne sait plus très bien finalement. Alors, sur la musique qui fout les jetons, je vous pose cette question, les grandes gueules. Est-ce que oui ou non, cette édition 2022 restera dans l'histoire? Marie Martineau.
Alors, oui pour moi.
Oui pour Marie Martineau. Marion Bartoli.
Oui.
Oui pour Marion Bartoli. Christophe Cessieux.
Non, je pense pas.
Non pour Christophe Cessieux. Ça a été bien vendu pourtant, à l'antenne.
C'est vrai.
Jérôme Coppel.
Un grand oui pour moi.
Un grand oui pour Jérôme Coppel. Avant de vous laisser la parole pour ce débat, je vais me tourner vers Christophe, évidemment, qui a couvert chaque étape, chaque jour, la préparation de cette course. Toi qui couvrais ta 109e édition du Tour de France, Christophe.
C'est toute la différence avec nous. Moi, j'ai moins de référence.
Maurice Garin s'est entré dans l'histoire, pas Vingegaard, mon petit bonhomme.
Ouais, toi qui as de quoi comparer. Que retiens-tu de cette cuvée 2022?
Ce que je retiens de cette cuvée, je retiens un tour extraordinaire. Je dis qu'il ne rentrera pas dans l'histoire, parce que pour rentrer dans l'histoire, il faut qu'il y ait des renversements de situation à la dernière minute. Rappelez-vous par exemple en 2020, quand Pogacar dépossède Roglic de son maillot dans le dernier contre la montre dans la planche des belles filles. Ça, évidemment, cette image, elle restera dans la tête de tout le monde, parce que c'était à 24 heures de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Rappelez-vous aussi de l'édition 2019, lorsque Thibaut et Alaphilippe qui nous ont régalé pendant des semaines avec le maillot jaune sur les épaules de Alaphilippe pendant 12 jours, perd son maillot jaune l'avant-veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées et Thibaut Pinot abandonne. Là, évidemment, on se souvient et tout le monde se souviendra de cette édition 2019. L'édition. Voilà, il faut la dramaturgie, il faut un renversement de situation à la dernière minute. Là, on a eu une étape extraordinaire, parce que je dis que le Tour dans son ensemble ne restera pas dans l'histoire. En revanche, l'étape à l'arrivée au col du Granon restera évidemment dans la légende. Elle fait partie des grands moments du Tour de France. Rappelez-vous, peut-être que tu t'en souviens, Simon, Poulidor Anctil en 64, en 68.
Ah oui,
on
s'en souvient très bien. Ah, la team, c'était mieux avant. Mais tu me manques tellement, Christophe, il faut que tu reviennes.
C'était toujours mieux avant, effectivement.
Oui, non, mais
voilà, on était ensemble, Christophe, effectivement.
Ben oui, on était là tous les deux, mon petit bonhomme. Non, mais voilà, cette étape dans le Col du Granon, là, évidemment, elle restera dans la légende. Parce que, rappelez-vous, cette incroyable mano à mano entre la formation de Jumbo d'un côté et Pogacar de l'autre, qui a attaqué, qui a harcelé, qui répond, et qui, au bout du compte, finalement, comme un boxeur sonné, ben, finit dans les cordes et se fait taper son maillot jaune par Vingegaard. Ça, cette image, on la gardera dans les mémoires. Mais malheureusement, il n'y a pas eu derrière de rebondissement qui aurait pu faire que ce tour reste dans les grandes cuvées du Tour de France.
Mais alors justement, je me tourne vers les trois autres, Marion, Marie et Jérôme. Il apporte un petit peu de l'eau à votre moulin, Christophe. Non, cette édition ne restera pas dans l'histoire, mais pourtant, il y a quand même une étape qui restera dans la légende, forcément. J'imagine que Jérôme, ça doit effectivement... inscrire cette édition avec ce mano à mano, ce duel qui a nourri ces duels, ils nourrissent l'histoire et la légende du Tour. Donc forcément, cette édition 2022 pour toi, elle est inscrite déjà dans la grande histoire avec un grand H du Tour de France.
Oui, bien sûr, parce que moi je pense un peu à l'inverse de Christophe justement. 2020, moi je me rappelle quasiment que du chrono de la planche des belles filles finalement. Là où Pogacar va renverser Roglic, mais moi je trouve que sur ce Tour de France, alors bien sûr il y a cette étape 11, moi j'ai aucun souvenir de que ça soit les tours que j'ai fait sur le vélo ou regarder ou commenter, etc. J'ai aucun souvenir d'une étape comme on a eu vers le Granon, c'est-à-dire les cadors qui commencent à se faire la guerre à 65 km de l'arrivée. Il y en a eu partout sur cette étape-là, le maillot jaune qui connaît une défaillance énorme, et puis l'équipe Jumbo et Vingegaard qui retournent le Tour de France. Mais au-delà de ça, il y a eu plein d'autres choses. Je veux dire, Pogacar, quand il gagne ses deux tours à la suite, on se dit, ça y est, il est parti pour régner 5 ans ou 10 ans sur le Tour de France. Et finalement, c'est pas ça cette année. On a un Tour de France qui va connaître sa vitesse moyenne la plus élevée. Ça veut dire que ça roule très vite. On a eu de la castagne tous les jours. On a une équipe Jumbo complètement incroyable, une force collective énorme. Et à l'inverse de d'habitude, on en a connu des forces collectives avant, des équipes qui étaient très fortes collectivement. Bien sûr, on va penser à Armstrong, etc. Mais Sky, par exemple, c'était la même chose. Ils avaient un collectif énorme, mais dès qu'ils avaient le maillot jaune, ils assommaient la concurrence. C'est sur ça. La première étape de montagne, et après ils défendaient. L'équipe Jumbo, ils n'ont pas défendu. Ils ont envoyé Van Aert tous les jours à la castagne. Même Vingegaard, on l'a encore vu hier au chrono. Le mec, il a 3 minutes 26 d'avance. Il a deux doigts de se casser la gueule parce que peut-être il veut aller gagner l'étape. Ils n'ont jamais été sur la défensive, l'équipe Jumbo-Visma. Et puis on avoue de Van Aert qui va être super combatif, qui va battre le record du nombre de points au maillot vert. C'est une édition de tous les records, donc pour moi elle va rester dans les annales.
Marion, tu souscris à ce que vient de dire
Totalement, Jérôme. Pour moi vraiment exactement, je suis sur la même idée que Jérôme. Effectivement, les vitesses de pointe, même les vitesses moyennes, sont juste ahurissantes. Enfin, l'étape que Christophe Laporte remporte, il est quand même à 48,6 km/h de moyenne. Enfin, c'est juste monstrueux. Et il y a des écarts qui n'ont jamais quasiment existé dans un Tour de France. Franck Bonamour, qui l'année dernière était encore quasiment à l'avant du Tour de France, il a fini son calvaire dans le camion balai à 22 minutes de retard. Donc ces écarts-là, ces capacités à attaquer dès le début, avec Wout van Aert, avec d'autres aussi, c'est cette non-défense, en fait, cette action tous les jours de faire le tour comme si c'était une classique chaque jour. Et c'est ça qui, pour moi, a changé. Auparavant, il y avait vraiment une gestion du Tour de France où chaque étape était calculée. Il y avait des étapes où on n'y allait pas trop, des étapes où on conservait son énergie, des étapes où vraiment on avait tout misé pour assommer le tour. Là, cette année, j'ai l'impression que chaque étape, c'était comme une classique et qu'il fallait la remporter, que tout le monde voulait la remporter. Et ça, pour moi, cette animation permanente, ça m'a beaucoup plus enclin à suivre le tour cette année. Je vais être vraiment honnête, les autres années, j'avais l'impression que dès qu'il y avait quelqu'un qui s'emparait du maillot jaune et que voilà, il commençait à dominer, à part effectivement Pogacar ou Roglic, mais sinon c'était assez plié assez rapidement, alors que là, pas du tout cette année. Et je trouve que
ça a été plié dès la 11e étape. Il n'y a plus de suspense depuis. Tout s'est réglé effectivement dans cette étape du Granon.
Que Pogacar va avoir la capacité de revenir. T'as envie de voir si les Français vont être capables de gagner l'étape.
Il n'a jamais été capable de le faire.
Il n'a pas été capable, mais il aurait pu.
Oui, mais le Tour de France, c'est pas que la victoire finale, Christophe, c'est aussi les victoires d'étape. C'est, on a eu de la bagarre tous les, même si le, oui, tu dis que le Tour de France était plié à la 11e étape. Après, on a eu de la bagarre sur toutes les étapes.
D'accord, mais pour que un Tour de France rentre dans la légende dans notre pays, il faut aussi que les Français soient à l'attaque tous les jours. Or, les Français, mis à part Christophe Laporte avant-hier, je suis désolé, mais ils ont rarement été dans le coup pour aller chercher une victoire d'étape. Et puis, les écarts, vous parlez des écarts incroyables. Et justement, quand il y a des écarts, il n'y a pas beaucoup de suspense quand tu vois un mec complètement au fond de la classe. Hier, au départ du chrono, on était tous là à se dire, oh là là, il n'y a aucun suspense, on va s'ennuyer tout l'après-midi. Et on s'est ennuyé quasiment jusqu'aux 5 derniers kilomètres quand il y a eu ce petit suspense entre Van Aert et Vingegaard. Mis à part ça, tout était joué à l'avance. Et un Tour de France, pour qu'il rentre dans la légende, il faut que jusqu'à la dernière minute, on sente le frisson, on sente qu'il puisse se passer quelque chose. Hier, on savait que rien ne pouvait se passer.
Donc ça veut dire que les grands Tours de France de l'époque d'Armstrong ne rentrent pas dans la légende parce que c'était plié du début jusqu'à la fin.
Ils ne rentrent pas dans la légende. Évidemment qu'ils ne rentrent pas dans la légende.
Ce Dino non plus alors.
Pardon ?
Ce Dino non plus alors. Parce qu'il avait le Tour de France gagné bien avant la veille de Paris.
Ouais, mon petit mémé, c'était un Français, donc ça change tout.
C'est ça. Donc si Vingegaard était français, c'était un tour d'anthologie. Exactement. On a quand même 4 Français dans le top 15, évidemment. On a une victoire d'étape, ils ne sont pas passés au travers.
Mais le problème, c'est qu'on n'a toujours pas de successeur à Hino depuis 1985. Donc effectivement, si un Français avait gagné aujourd'hui, là, c'était un tour qui entrait dans l'histoire. Je pense que je serais mort depuis longtemps quand un Français.
Allez, pas tout seul à point, pas tout seul.
Elle est copain.
La dernière, oui, mais la dernière, c'est pas dans la légende.
Je lâche rien.
On n'a pas encore entendu Marie Martineau. Marie. Le tour, l'histoire du tour, ce n'est pas que l'histoire pour les Français et pour la France. L'histoire du tour, elle appartient à tous les pays, à tous les amoureux de cyclisme.
Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Le truc, c'est que je comprends le point de vue de Christophe, mais moi qui suis le vélo depuis moins longtemps, il a fallu que je fasse beaucoup d'efforts pour m'y accrocher parce que justement, je comprenais pas. Je comprenais pas les dynamiques, je comprenais pas comment ça fonctionnait et je trouvais ça long, mou. J'avais l'impression que je pouvais faire la sieste et ne regarder que les 20 derniers kilomètres. Et je pense que je représente quand même pas mal de Français qui se passionnent quand même, mais sur la fin du tour, sur la fin des étapes. Et je trouve que ce tour-là, justement, il va rester dans les annales parce qu'il a fallu que on se mette dedans tout de suite. Il y a plein d'étapes où ça a démarré très tôt, où ça partait très tôt. La Jumbo qui roulait sans défendre son maillot, mais juste pour vraiment aller chercher d'autres choses en plus, c'est pareil, j'avais jamais compris ça. Et au contraire, je comprenais pas, je posais des questions autour de moi en disant, mais pourquoi l'équipe maillot jaune, ils font pas plus d'attaques. Pourquoi? Et on me dit, mais parce qu'il faut défendre le maillot jaune. Une fois que tu l'as, tu le gardes, il faut le défendre. Et ça me paraissait absurde d'être les meilleurs et de jouer tout le temps la défensive. Donc, rien que pour ça, je trouve que ce tour, il a déjoué les pronostics. Il nous a fait tous mentir. On s'est tous posé sur Pogacar. Puis on s'est tous dit, ah bah non, ça sera quelqu'un d'autre. Et finalement, on s'est posé la question pendant toute une semaine de se dire, est-ce qu'il va être capable, Vingegaard, de le garder? Ça fait beaucoup de scénarios, qui nous ont tenus en haleine. Tu vois ce que je veux dire, Christophe, par rapport à ça ?
Ouais, enfin, on t'a vibré dans combien d'étapes ? Effectivement, l'étape du col du Granon, ça rentrera dans la légende, on en parlait tout à l'heure, celle d'Otakam aussi.
Mais dans les Pyrénées, tu vois la descente d'Otakam, la chute, enfin, toute cette descente m'a tenue hors d'haleine, c'est incroyable.
Deux étapes extraordinaires.
Et j'ai aussi vu le côté... Tu vois, deux mecs qui se tirent la bourre, mais qui ont un respect fabuleux l'un pour l'autre. Oui, c'est-à-dire que je m'attendais pas du tout à ce check, au fait qu'ils s'attendent et tout après la chute de Pogacar. Waouh, ça m'a fait vraiment, ça m'a ramené quelque chose d'humain dans le vélo.
Dans les deux sens, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a Pogacar qui vient féliciter Vingegaard, alors que Vingegaard vient de le battre. Il y a Vingegaard qui attend sur Pogacar après la chute du Slovène. C'est vrai, Christophe, je veux pas m'allier à aux trois autres, mais qu'est-ce que finalement on demande? Très souvent, on avait un coureur qui dominait et justement, on se disait, mais pourquoi les autres équipes ne l'attaquent pas? Pourquoi on n'est pas tout en œuvre pour l'attaquer? Là, il y a eu la stratégie du harcèlement dans le Galibier avant le Granon par les Jumbo. Il y a eu ce Pogacar qu'on disait invincible pendant les 10 premiers jours de course qui a finalement été renversé. On a un nouveau vainqueur, on a un duel qui annonce des années de bataille pour les prochaines éditions du Tour de France. Bon, j'ai envie de dire que...
Qu'est-ce qui nous manque ?
Qu'est-ce qui vous manque exactement, Monsieur Cessieux, pour lui faire une petite place dans l'histoire du Tour ?
Bah, il me manque peut-être un peu d'émotion. Un peu d'émotion hier, un peu d'émotion lorsqu'un Français peut se bagarrer pour aller chercher la victoire finale. Je ne dis pas que je me suis ennuyé dans ce Tour de France, loin de là. Je me suis régalé, mais je dis simplement qu'il ne rentrera pas dans l'histoire, dans la légende des plus grands Tours de France. Voilà, c'est la seule différence. Évidemment qu'on s'est régalé pendant trois semaines, on ne s'est pas ennuyé avec Jérôme, même si on a roupillé un peu quand même l'après-midi de temps en temps. Hein. Surtout moi, je dors 5 heures par jour quand je suis à l'antenne. C'est pour ça que heureusement qu'il y a Jérôme et Cyril, parce qu'autrement on s'emmerderait. Hein.
Non mais Christophe, l'étape des pavés où Pogacar, il n'a pas encore le maillot jaune, mais il attaque, c'est le bazar dans l'équipe Jumbo avec la crevaison de Vingegaard. Dans 10-15 ans, l'image de Vingegaard qui est en train d'attendre Pogacar après sa chute, qui serre la main, on la reverra encore cette image dans 15 ans, dans 20 ans. C'est pas les 21 étapes qui vont rester dans la légende, mais il n'y a aucun Tour de France qui est comme ça. Il y a toujours des étapes où on s'ennuie, où on s'embête, et il y a des étapes qui marquent l'histoire. Pour moi, l'étape des pavés, l'étape du Granon, cette image de Vingegaard, on a quand même Vingegaard qui est à deux doigts de partir à la faute. Deux virages plus tard, c'est Pogacar qui est par terre. Après, ils s'attendent. Après, on a Van Aert qui va faire le train pour Vingegaard. Ça explose de partout. Ça, c'est aussi une étape d'anthologie comme le Granon. Il y a quand même eu des moments super forts dans ce Tour.
Mais il y a eu des moments très très forts dans le Tour. Je te le dis, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a eu des grandes étapes, mais je continue à dire que ce Tour restera pas dans la légende parce que il a manqué quelque chose sur la fin. Est-ce c'est que, tout. Il n'y a alors... pas eu de suspense depuis la 11e étape. Il y a eu effectivement des tentatives. Il y a eu effectivement Vingegaard qui a failli aller au tapis à deux reprises, l'autre jour et encore hier. Mais ça l'a pas fait. Donc voilà.
Est-ce que Christophe, le fait qu'on ait vu des lancements toute la semaine sur la suite de ce Tour avec un Tour féminin ne le fera pas aussi rentrer dans la légende parce qu'il a quelque part une suite à ce Tour masculin?
Parce qu'il y a un Tour féminin derrière
qui... Ouais, et on en a parlé tout le long de ce Tour-là aussi, je me demande.
Voilà, je sais pas, j'ai pas trop d'idées là-dessus, j'ai pas réfléchi à ça, effectivement, tu me poses une colle. On va voir si le Tour féminin qui débutera cet après-midi va entrer dans la légende aussi. Mais tu sais, sur le Tour masculin, on n'a pas beaucoup entendu parler du Tour féminin pour l'instant, jusqu'à présent. Évidemment, aujourd'hui, ça va changer, mais on était quand même focus sur la course des garçons.
Et ouais, là, je comprends.
On a commencé à s'intéresser à la course des filles, mais je pense pas qu'on puisse mettre les deux en interaction pour parler d'un Tour de légende. Quoi.
Le Tour de France homme et le Tour de France femme, première édition, qui se croisent effectivement aujourd'hui, puisque la première étape du Tour de France femme précédera celle des hommes, hein, de la Tour Eiffel aux Champs-Élysées, direction la planche des belles filles pour les 144 coureuses du peloton de ce premier Tour de France femme, évidemment.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.